France Culture.
Fordo, Natanz, Ispahan. Les États-Unis ont bombardé ce week-end ces trois sites nucléaires en Iran, se joignant ainsi aux attaques initiées par Israël et amoindrissant un peu plus la capacité du régime iranien à obtenir la bombe à brève échéance. Mais dans ce conflit, l'Iran a-t-il déjà perdu? Que lui reste-t-il comme ressource et comme levier? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Héloïse Fayet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique et spécialiste notamment du nucléaire. Avec nous et à distance depuis Beyrouth, Elie Fayad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, quotidien francophone libanais bien connu. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Cela ne peut plus continuer. Soit il va y avoir la paix, soit il y aura une tragédie bien pire pour l'Iran que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore beaucoup de cibles. Ce soir a été la plus difficile de toutes, et de loin, et peut-être la plus meurtrière. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être supprimés en quelques minutes. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire ce qu'on a fait ce soir.
Donald Trump, le président américain, qui se félicitait hier des attaques lancées par l'armée qu'il dirige. Et vous écrivez, Héloïse Fayet, dans une tribune qui vient de paraître dans le journal Le Monde. Ces attaques, vous parlez des attaques américaines, révèlent un constat. La stratégie de dissuasion conventionnelle iranienne, dont la latence nucléaire était un pilier central, a échoué à prévenir une offensive militaire. Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Donc depuis en fait la création de la République islamique donc en 1979, la protection du territoire et surtout en fait après la fin de la guerre en Irak, donc à partir de 1988, la protection du territoire iranien, elle était vraiment construite sur trois piliers. Donc déjà un réseau de milices plus ou moins proche de l'Iran au Moyen-Orient, donc le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, certaines milices chiites en Irak. Également, un arsenal balistique qu'on pensait être extrêmement dense, extrêmement pluriel. Et puis cette stratégie de latence nucléaire, qu'on appelle aussi un état du seuil nucléaire, c'est-à-dire avoir la capacité technique de fabriquer une arme nucléaire en quelques mois, quelques années, sur décision politique. Et donc, en fait, ce trinôme était censé empêcher une attaque directe sur le territoire iranien. Et donc, ça a tenu le coup, hein, quand même, pendant une bonne quarantaine d'années, jusqu'au 7 octobre, où ça a été le début du démantèlement par Israël de ce réseau de milices, cet axe de la résistance au Moyen-Orient. Donc là aussi, le Hamas, le Hezbollah, certaines milices chiites en Irak ont préféré s'intégrer dans la vie politique du pays plutôt que potentiellement se sacrifier pour l'Iran.
Les Houthis qui ont passé certains accords avec les Américains
voilà,
notamment.
Voilà, effectivement, les frappes américaines et britanniques sur les Houthis ont été assez efficaces en ce sens. Et puis, donc, l'arsenal balistique, eh bien, on a vu son manque d'efficacité dans les attaques contre Israël en avril et en octobre 2024, lorsque la plupart des missiles ont été interceptés par la défense antimissile israélienne. Et puis là, effectivement, c'est cet échec en fait de cet état du seuil nucléaire. Les Israéliens ne semblent pas croire en fait à la menace proliférante de l'Iran en soi, qu'ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir arrêter cette menace proliférante en frappant le territoire iranien et surtout ses installations nucléaires.
Elie Fayad, de cet échec de la dissuasion iranienne, on pourrait presque le retourner. Comment cette dissuasion a-t-elle réussi à tenir le coup, si je puis dire, tant d'années?
Elle a réussi à tenir le coup parce que simplement les États-Unis notamment avaient tenté par la diplomatie de parvenir à un accord, les États-Unis et ainsi que le groupe des États qui négociaient donc avec l'Iran et qui sont arrivés en 2015 à un accord, le fameux JCPOA, lequel a été dénoncé quelques années plus tard de façon unilatérale par Donald Trump. Mais à l'exception d'Israël, il y avait encore donc des partis, des puissances qui continuaient à croire qu'on pouvait, par la négociation, parvenir à un accord avec l'Iran.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Olice Faye avec ce point de vue ? Dans le fond, c'est le fait de privilégier la diplomatie, la négociation côté occidental, côté américain surtout, qui a permis à cette stratégie de la dissuasion iranienne de tenir tant de temps ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que quand même l'accord sur le nucléaire iranien, donc signé en 2015, il bénéficiait quand même à tout le monde. Il faut se rappeler qu'il y a aussi la Russie et la Chine qui étaient signataires de cet accord, et en fait c'était le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour avoir un contrôle total sur le programme nucléaire iranien, un minimum de transparence. Et en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est en fait, partiellement, voire complètement, à cause de Donald Trump, du fait qu'il se soit retiré de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Mais de toute façon, aucun acteur...
Il avait repris de Donald Trump depuis mars, justement, cet exercice de négociation.
Parce que justement, il s'est rendu compte, en fait, que c'était une bêtise que d'être sorti du JCPOA, et il espérait, effectivement, pouvoir conclure un meilleur accord, sauf que les Iraniens, une fois que les États-Unis étaient sortis de l'accord, donc en 2018, assez rapidement, et aussi du fait de tensions locales entre États-Unis et Iran, donc au Moyen-Orient, ont repris une stratégie d'enrichissement. Et donc, en fait, jusqu'aux frappes israéliennes qui ont débuté le 13 juin, le programme nucléaire iranien était plus avancé que jamais. Et donc, en fait, c'était beaucoup plus difficile pour Donald Trump de revenir aux standards imposés par le JCPOA, de faire une sorte de JCPOA bis, qu'il ne l'aurait cru, d'où aussi, en fait, l'échec des négociations qui ont en fait surtout été torpillés par justement ces frappes israéliennes et américaines.
Si on se place, Elie Fayad, désormais du point de vue israélien, comment est-ce que vous analysez ces attaques qui ont été perpétrées dans la nuit du 21 au 22 juin ? Est-ce que c'est une victoire pour Israël ? Est-ce que le pays a réussi, j'allais dire, à ramener les États-Unis dans ce combat ? Ou bien c'est une dépendance réaffirmée vis-à-vis de la première puissance mondiale ?
Moi, je pense qu'il y a les deux, bien entendu. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'Israël essaye de convaincre les États-Unis d'intervenir pour mettre fin au programme nucléaire. En quelque sorte, ils sont parvenus, même si ce n'est que de façon partielle. Et d'ailleurs, je partage totalement ce qui a été dit tout à l'heure, donc à propos du fait que c'était une bêtise de sortir du JCPOA en 2018. Je pense que c'était en 2018.
Absolument.
Ce qui avait permis à l'Iran, bien entendu, de reprendre son programme et de l'amener beaucoup plus en avant par rapport à ce qui y était fait auparavant.
Si on essaye désormais, Loïs Fayet, de comprendre à quel point ces attaques israéliennes, américaines dans un second temps, ont réussi, à quel point, j'allais dire, tout ce que l'Iran a déployé en matière de préparation d'armes nucléaires, à quel point ce dispositif-là a-t-il été détruit depuis le lancement des attaques israéliennes, mais depuis ce week-end particulièrement ?
Déjà, il faut bien se rappeler que l'Iran ne dispose et ne disposait pas d'armes nucléaires fonctionnelles telles que possèdent par exemple Israël, la Russie, la France ou d'autres pays. Alors on peut, je pense, diviser les dégâts israéliens et américains en trois catégories. Donc déjà les dégâts sur la connaissance scientifique, parce qu'il faut se rappeler qu'Israël n'a pas ciblé que des sites nucléaires iraniens, mais bien aussi une douzaine je crois, de scientifiques iraniens qui ont été neutralisés par Israël. Donc ça c'est quelque chose qu'Israël avait déjà fait. Donc ce qui va ralentir évidemment le programme nucléaire, mais il faut bien imaginer qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent sur le nucléaire en Iran et pas que cette dizaine de scientifiques. Ensuite, le deuxième pilier, c'était justement cet arsenal de missiles balistiques dont certains étaient potentiellement capables d'emporter une tête nucléaire si jamais une tête nucléaire était fabriquée par les Iraniens. Donc là aussi, en fait, c'est une partie du programme qui a été neutralisée assez en profondeur, ce qui permet aussi en fait aux Iraniens, ce qui oblige les Iraniens à ralentir leurs attaques contre Israël. Et puis le troisième pilier, ce sont évidemment ce dont on parlait au début, c'est-à-dire les attaques contre Fordo, Ispahan, Natanz, potentiellement Karaj aujourd'hui, donc des sites clés du programme nucléaire iranien, avec pour le coup une évaluation de la situation qui reste très difficile à faire aujourd'hui. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique et les officiels américains le reconnaissent, parce que c'est extrêmement compliqué maintenant d'avoir accès au site, tout simplement, étant donné qu'ils ont été partiellement détruits, surtout pour le site de Fordo qui lui est en profondeur. Mais ce que disait le directeur de l'AIEA, c'est que les centrifugeuses, donc qui permettent d'enrichir l'uranium, sont très fragiles, notamment fragiles à la poussière, fragiles au choc, fragiles aux vibrations. Donc là, avec ce qui est tombé sur Fordo, on peut se douter quand même qu'il y a une partie des centrifugeuses qui a été détruite. Cependant, et c'est ça qui est le plus inquiétant, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une partie de la matière fissile, c'est-à-dire de l'uranium enrichi à plus de 60%, qui a été évacuée de Fordo en amont des frappes américaines. Et là, on en a potentiellement perdu la trace, ce qui semble en fait pousser à l'hypothèse d'une diversion de la matière vers un site secret qui du coup n'est pas surveillé par l'AIEA. Et là, en fait, les Iraniens pourraient potentiellement reprendre leurs travaux depuis ces sites.
On parle effectivement de 408 kg enrichis qui auraient été isolés, dissimulés par le régime iranien. Ce sont, selon vous, Héloïse Fayet, des informations fiables ou c'est seulement le régime iranien qui avance cette hypothèse?
Alors, ça peut être effectivement une tentative de la part de l'Iran de maintenir justement cette stratégie d'état du seuil nucléaire pour signaler qu'ils sont toujours capables de le franchir si besoin. Cependant, c'est quand même une théorie qui a été reprise par les officiels américains et je crois aussi par les Israéliens. Donc à mon avis, on peut quand même y apporter du crédit, surtout quand on voit justement le degré de précision du renseignement israélo-américain pour conduire ces attaques.
Elie Fayad, est-ce qu'on est selon vous un tournant dans l'histoire du nucléaire iranien? Est-ce que, si je puis dire, c'est le début de la fin ou il reste selon vous une capacité à ressurgir, à renaître de ses cendres dans quelques années? Elie Fayad, est-ce que vous êtes avec nous?
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Oui, ça a coupé un peu. Vous pouvez reformuler la question,
Est-ce que vous estimez que le nucléaire iranien est en passe, est-ce que c'est le début de la fin pour le nucléaire iranien ou bien il pourra renaître de ses cendres parce que les savoir-faire sont encore bel et bien vivants, eux?
C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas, on ne peut pas savoir aujourd'hui à ce stade si les Iraniens vont retenter l'expérience ou pas. Tout est possible. Je pense que l'Iran va continuer à utiliser autant que possible cette arme pour des raisons psychologiques d'abord. Mais on n'a pas en tout cas, moi, je n'ai pas de données. Objectif me disant quel est l'état actuellement du programme iranien et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur.
Au-delà des données objectives, Héloïse Fayet, est-ce que l'on peut, tenter de savoir si l'Iran a un intérêt objectif à renoncer ouvertement, entièrement à ce programme?
Alors justement, ce sont deux options totalement opposées que je détaille dans ma tribune. Donc soit l'option en fait de la capitulation face aux opérations américaines et israéliennes, donc le retour à la table des négociations et on est reparti pour 15 ans peut-être de repousser le programme nucléaire iranien à la fois par des options militaires et puis par la diplomatie. Et puis l'autre option, en fait, c'est celle de la fuite en avant. Après, là, la vraie question qui va avoir lieu, je pense, ça sera.
Pardonnez-moi, c'est quoi les. Je me permets de vous couper. C'est quoi les fuites en avant très concrètement? C'est par exemple des attaques sur certaines bases américaines au Moyen-Orient. C'est quoi? C'est plus d'attaques là encore contre Israël?
Non. Alors là, pour le coup, je parlais vraiment de fuite en avant par rapport au programme nucléaire spécifiquement. Et donc, en fait, la décision, enfin, ce qui va avoir lieu, ce qui va tout déterminer, ça va être évidemment la décision du guide suprême. Donc l'ayatollah Khamenei, qui est celui encore aujourd'hui qui a la main justement sur le programme nucléaire, donc est-ce qu'il va être dissuadé en fait de se relancer dans l'aventure du fait des difficultés techniques, ou est-ce qu'au contraire il va essayer, comme je disais, de relancer un programme d'une façon extrêmement discrète? Après, il a quand même 86 ans et depuis plusieurs mois en fait on voit des voix s'élever en Iran pour le pousser justement à changer de décision sur le nucléaire et à essayer de franchir le seuil nucléaire, de changer de doctrine entre guillemets, mais tous ces calculs-là, ils avaient lieu avant les opérations israélo-américaines et dans cette perspective où justement l'Iran était protégé par en fait cette dissuasion conventionnelle qui a fini par échouer.
Votre point de vue, Elie Fayad, parmi ces scénarios et lequel l'Iran devrait-il à l'avenir privilégier? Devrait-il, je ne parle pas de conseil évidemment, mais de probabilité.
Alors, de probabilité, je pense qu'il va devoir aller vers quelque chose qui ressemble à la capitulation, mais sans qu'on ne l'appelle comme ça, sans que ça soit apparent. Je pense que c'est quelque chose de très important pour le guide suprême aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, sa priorité, c'est la survie de son régime. Et donc, il fera tout pour assurer la survie de son régime.
À votre avis, Loïs Faiès, l'hypothèse de justement ce régime des mollahs qui pourrait tomber à la suite d'interventions répétées et israéliennes et américaines, c'est quelque chose de crédible? On sait à quel point, par ailleurs, ces interventions extérieures pour faire tomber des régimes, hein, depuis le conflit en Irak, depuis 2003, c'est évidemment très très compliqué à faire accepter, notamment par la communauté internationale.
Oui, c'est pour ça que je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Après, en Iran, en fait, on ne voit pour l'instant pas vraiment d'alternative politique crédible qui pourrait remplacer le régime des gardiens de la révolution et le régime de la révolution islamique. Donc c'est quand même très différent de la situation en Irak où il y avait une opposition politique chiite qui était prête à remplacer Saddam Hussein. Et surtout, pour l'instant, il ne semble pas y avoir en interne du gouvernement iranien des personnes prêtes justement à renverser le régime et qui seraient, entre guillemets, pas satisfaits par leur situation. Mais c'est certain que la nécessité de sauver le régime ou en tout cas de sauver la face, elle est essentielle pour l'Iran. Et donc c'est notamment pour ça en fait qu'on s'oriente potentiellement vers une riposte iranienne limitée sur des bases américaines au Moyen-Orient, mais potentiellement assez calibrée pour que ça ne provoque pas d'escalade vis-à-vis des États-Unis, mais pour que le régime puisse dire « Regardez, c'est bon, on a vengé en fait l'attaque sur nos sites nucléaires ».
La voix de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, il était l'invité d'RTL ce matin, il s'appelle Mohammad Ahmadinejad.
Non, l'Iran n'est pas en guerre avec les États-Unis. Comme l'agression israélienne sur le territoire iranien, il y a une autre agression, cette fois-ci venue par les États-Unis. Mm-hmm. Celui qui a brisé toute la loi internationale. Et les États-Unis étant un garant de la paix et de la stabilité dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, devait ne pas se permettre d'attaquer un pays pour des prétendues et allégations qui n'ont pas été confirmées. Mais c'est une blessure très très grave à la dignité, à l'honneur et fierté des Iraniens et basée sur un droit indéniable, le droit à la défense. Quel moment? Dans quelle mesure, ça dépend de la décision qui est en train d'être étudiée maintenant en Iran.
Comment est-ce que vous analysez, Eli Fayad, ces propos? L'Iran n'est pas en guerre avec les États-Unis. Est-ce que c'est un déni de la part de l'Iran ou bien c'est un refus d'entrer pleinement dans le conflit?
Ouais, je pense que c'est un refus d'entrer pleinement dans le conflit. Je pense que les Iraniens sont en train de comprendre plus ou moins le message que leur envoie Donald Trump. Donald Trump a en même temps frappé l'Iran et annoncé la limite lui-même de cette action. C'est-à-dire qu'il a ouvert la porte aux Iraniens pour trouver une solution négociée. Une solution négociée qui, à mon sens, ressemblera, en fait, aura tout d'une capitulation, mais n'aura pas le nom de la capitulation. Donald Trump s'était prononcé il y a une dizaine de jours pour la capitulation de l'Iran. Et puis ensuite, on ne l'a plus entendu prononcer ce mot. Je pense que quelqu'un a dû lui dire dans son entourage qu'il ne fallait pas le faire. Et donc, je crois que la seule solution aujourd'hui pour l'Iran, c'est d'aller dans ce sens. Probablement après une riposte limitée, en effet, sur l'une des bases américaines, peut-être au Qatar ou ailleurs, je ne sais pas, en Irak. On a vu ça après l'assassinat de Qassem Soleimani il y a 5 ans. Les Iraniens avaient riposté sur une base américaine en Irak, mais ils avaient tout fait pour que ça reste limité, qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes américaines. Et voilà.
On a reçu beaucoup d'emails à la suite d'émissions sur ce sujet. Héloïse Fayet demandant pourquoi on parlait si peu du nucléaire israélien cette fois-ci. Je vous vois approuver. Alors pourquoi est-ce qu'on parle si peu du nucléaire israélien? Est-ce que c'est parce qu'Israël est une puissance nucléaire à moitié, en tout cas que son programme de dissuasion n'est pas pleinement connu et défini par lui-même?
Alors il y a ça, effectivement, cette doctrine d'ambiguïté autour de la possession par Israël d'armes nucléaires, alors qu'il y a quand même été fini par être reconnu par certains ministres. On se souvient notamment de propos très, très, très malencontreux d'un ministre israélien quelques jours après le début de l'offensive à Gaza, qui avait quand même dit que l'idéal ce serait de nucléariser la bande de Gaza. Donc il s'était fait complètement reprendre en fait en interne en Israël. Mais en fait, la vraie raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est aussi tout simplement parce que contrairement à l'Iran, Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération. C'est-à-dire qu'ils ont le droit techniquement de posséder des armes nucléaires sans aucune inspection de leur programme nucléaire par l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors que l'Iran fait partie du TNP et donc ne doit pas en fait développer d'armes nucléaires. Et c'est pour ça qu'il y a une telle observation.
Un tel examen
du programme nucléaire iranien.
Oui, mais comment cela se fait-il qu'on en parle si peu dans les débats, dans ces émissions entre nous? Je veux dire, par là, c'est quand même une donnée fondamentale dans la capacité même que l'Iran a d'attaquer Israël avec l'arme atomique. C'est le principe, j'allais dire, de la dissuasion.
Oui, alors oui et non à nouveau, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que la dissuasion nucléaire n'avait évidemment pas empêché l'Iran d'attaquer en fait Israël avec des missiles balistiques conventionnels. Mmh. Donc, même si on le savait très bien que la dissuasion nucléaire ne protège pas de tout type d'attaque, là, en fait, volontairement, je pense, Israël ne souhaite pas produire, par exemple, de signalement stratégique, comme peuvent faire, par exemple, la France ou la Russie pour sanctuariser leur territoire par rapport à l'arme nucléaire. C'est vraiment quelque chose qui touche à la survie existentielle de l'État. Aujourd'hui, la survie d'Israël, elle n'est pas du tout remise en question, voire, au contraire, elle se porte mieux que jamais.
Elie Fayad, votre analyse, comment se fait-il que l'on parle, je mets des guillemets autour de cette expression, mais si peu, effectivement, du nucléaire israélien dans ce conflit?
Dans ce conflit, mais pas seulement dans ce conflit, je pense qu'on parle très peu en général du nucléaire israélien. En réalité, bon, on en a parlé à certaines périodes, il y a eu des tentatives de mettre le doigt dessus, mais au final, la question du nucléaire israélien est un peu spéciale. En l'occurrence, ce n'est pas Israël qui menace l'Iran de destruction totale, c'est le contraire. Ça fait 40 ans ou plus que l'Iran menace Israël de destruction totale. Donc la question nucléaire accompagne cette intention déclarée, qu'elle soit sérieuse ou pas, est une autre question. Maintenant, pour ce qui est d'Israël, évidemment, il y a un autre problème, c'est la question palestinienne, c'est comment Israël gère cette question, c'est le refus de toute offre politique aux Palestiniens, ça c'est autre chose. Mais par rapport à l'Iran, il y a une différence fondamentale entre le nucléaire israélien et le nucléaire iranien, c'est que le nucléaire iranien était au service d'une politique régional de l'Iran, utilisant la question palestinienne et utilisant Israël à des fins d'influence et de domination dans la région, alors qu'Israël n'a rien à voir avec ce genre de politique.
Je voudrais que l'on tire le fil des ressources stratégiques de l'Iran, tenter de comprendre justement ce qui reste à l'Iran dans ce conflit et aborder le sujet du détroit d'Ormuz à travers la voix du général Dominique Trinquant. Il était l'invité lui aussi ce matin d'RTL.
Alors on a un exemple, c'est le détroit de Bab el-Mandeb qui arrive vers la mer Rouge. Ce sont les Houthis, non pas qui le bloquaient, mais qui mènent des attaques. Dès que vous montez des attaques contre des pétroliers, les assurances montent de 500% et tout le monde refuse de passer par là. Pour sortir du golfe Persique, il faut passer par Hormuz. Donc il y a une capacité certaine de neutraliser là. Maintenant, ça va beaucoup embêter les Chinois, puisque l'essentiel du pétrole iranien va en Chine en passant par là. D'autant que les routes de la soie passent par l'Iran pour aller ensuite vers la Russie ou d'autres directions. Donc c'est pour ça que l'Iran est extrêmement important pour les Chinois, qui les approvisionnent actuellement en matériaux pour faire des missiles. Donc on n'en parle pas trop, mais l'axe Russie, Iran, Corée du Nord, Chine est essentielle aujourd'hui.
Sur le détroit d'Ormuz, Héloïse Fayet, partons du début. Comment l'Iran s'y prendrait-il pour le bloquer, ce détroit, concrètement?
Oui, donc l'Iran a une grande expérience en termes notamment de guerre des mines. Donc il pourrait en fait miner une partie du détroit d'Ormuz. Et puis aussi, il pourrait en fait mobiliser plein de petits bateaux, des flottilles en fait, afin là aussi de compliquer en fait la circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc hier, donc dimanche soir, le Parlement iranien s'est prononcé en faveur d'un blocage du détroit d'Ormuz, mais la décision doit encore être prise par le Conseil de sécurité, enfin le Conseil suprême au niveau, enfin iranien. Alors, c'est une solution, enfin c'est une option évidemment qui est possible pour les Iraniens. Après, ça reste quand même assez escalatoire, et puis effectivement, ça peut aussi en fait les pénaliser. Ça peut aussi les pénaliser eux-mêmes. Et sur le plan spécifique du droit international, il y a une partie aussi du détroit d'Ormuz qui est contrôlée par Oman, et donc en fait, les Iraniens ne pourraient pas entièrement, a priori, bloquer la circulation. Et puis surtout, en fait, dans ce conflit, enfin dans cette escalade depuis le 13 juin, les Iraniens se positionnent quand même en victime, évidemment, du fait que ce sont les Israéliens qui vont attaquer en premier, ensuite les Américains. Et donc, en fait, bloquer le détroit d'Ormuz pourrait un peu contrer, je pense, ce récit essentiellement victimaire de la place de l'Iran.
Est-ce que vous êtes d'accord, Elie Fayad? Est-ce que dans le même temps, ce détroit d'Ormuz, ce n'est pas l'un des derniers leviers efficaces dont l'Iran dispose pour agir notamment et influencer la communauté internationale, puisque l'impact sur le prix du pétrole notamment n'affecterait pas seulement les États-Unis, mais la communauté internationale tout entière?
Alors, c'est un levier, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est un levier efficace dans la mesure où il ne s'agit pas là d'une riposte contre Israël et les États-Unis, mais une riposte contre le monde entier, y compris les alliés de l'Iran, et y compris des nôtres. Donc c'est un levier qui est quand même assez risqué pour l'Iran.
Donc vous êtes plutôt dubitatif, Héloïse Fayet.
Alors là, pour le coup, étant donné qu'il y a en fait en ce moment même une attaque sur Doha, donc la capitale du Qatar, je pense que pour l'instant les Iraniens ont plutôt choisi l'option d'une riposte donc contre des sites militaires américains, donc en commençant par le Qatar, peut-être ensuite les Émirats arabes unis. Alors après, il faut espérer que cette riposte effectivement elle soit calibrée, qu'elle ait été faite peut-être quasiment en coordination. Alors peut-être pas coordination, mais en tout cas en ayant communiqué cette volonté auprès des Américains en amont, comme l'expliquait en fait effectivement Elie Fayad, comme lors de la mort de Qassem Soleimani, les Iraniens avaient attendu plusieurs jours avant de riposter, ils en avaient parlé avant les Américains, enfin ils avaient signalé aux Américains leurs intentions, parce que là il s'agit à nouveau en fait de sauver la face du régime, mais de ne surtout pas provoquer de nouvelles frappes américaines sur le territoire iranien.
Vous parlez, Héloïse Qatar, des monarchies du Golfe, hein, du Qatar notamment. Elie Fayad, est-ce que j'allais dire, ces acteurs usuellement proches des États-Unis qui expriment leur mécontentement depuis les frappes américaines de ce week-end pourraient aussi être un allié relatif, j'insiste sur ce terme-là, pour l'Iran dans les jours prochains, dans les semaines qui arrivent?
Excusez-moi, mais ça a coupé au début, je n'ai pas entendu le début de votre phrase.
Si je résume ma question, je voulais savoir si les monarchies du Golfe, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, pourraient être dans les jours et les semaines qui viennent un allié relatif pour l'Iran, pour leur permettre justement de ralentir les attaques israéliennes et américaines.
Les monarchies du Golfe ont depuis le début pris une attitude très prudente. Ils ont condamné dans le principe donc la guerre déclenchée par Israël, mais je pense personnellement qu'ils n'iraient pas plus loin. Ils ne tenteraient pas de s'impliquer davantage et ils garderaient profil bas.
Et Louis Fayet, votre point de vue est similaire?
Là, justement, ça va dépendre en fait de cette riposte iranienne, c'est-à-dire si jamais il y a des morts au Qatar qui ne sont pas des militaires américains. Là, je pense que ça sera compliqué pour le Qatar de continuer à fermer les yeux sur les actions iraniennes. Mais c'est certain, évidemment, que eux ont intérêt à une stabilité au Moyen-Orient. On se souvient notamment qu'il y a eu des rapprochements entre Arabie Saoudite et Iran il y a quelques mois. Et donc, en fait, personne, à part les Israéliens et les Américains, n'ont vraiment intérêt à une déstabilisation profonde et durable de la région.
La voix cette fois-ci du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, il était en déplacement hier à Moscou. On va tenter de comprendre justement si d'autres pays extérieurs à la région pourraient venir en aide à l'Iran ou intervenir indirectement dans ce conflit.
Nous avons toujours eu des consultations étroites avec nos amis russes sur toutes ces questions. En ce qui concerne le programme nucléaire iranien, la Russie a été un partenaire et un compagnon. Elle a construit pour nous les installations nucléaires de Bouchehr. La Russie a également participé aux négociations nucléaires et a été l'une des principales parties au pourparlers. Le niveau de tension augmente actuellement en raison de l'agression injustifiée que le régime israélien et les États-Unis ont mené contre l'Iran. Ces attaques sont contraires à la Charte des Nations Unies. Elles violent les lois internationales et la République islamique d'Iran est actuellement engagée dans un processus d'autodéfense légitime en réponse à ces agressions. Nous remercions la Russie pour ses positions très fermes dans la condamnation de ces attaques.
Alors Elif Ayad, est-ce que l'Iran peut vraiment compter sur la Russie qui, là aussi, fait profil bas depuis plusieurs jours ?
Oui, je pense qu'elle va continuer à faire profil bas. J'ai entendu le porte-parole du Kremlin à la suite de cet entretien entre M. Poutine et le ministre iranien des Affaires étrangères. Il disait qu'il n'y avait pas grand-chose à proposer pour l'instant et qu'ils allaient étudier la question qu'est-ce que la Russie pouvait offrir à l'Iran. Et il a reparlé à un moment de la possibilité de reposer sur la table la question de la médiation russe, qui est évidemment moquée par les Européens, par ailleurs.
Et Loïs Feillet, est-ce que vous pensez vous-même que la Russie puisse jouer un rôle ? Et d'ailleurs, on se demande quels seraient ses intérêts objectifs à entrer dans ce conflit.
Alors, il faut se rappeler que même s'il y a des accords effectivement qui ont été signés entre la Russie et l'Iran, il n'y avait pas d'accord de défense tel qu'on peut l'entendre en fait au sens occidental, par exemple entre la France et les Émirats Arabes Unis. Mais il y avait en fait tout simplement une précaution que si jamais une partie donc au traité, donc enfin à l'accord, c'est-à-dire la Russie ou l'Iran était attaquée par quelqu'un d'autre, eh bien l'autre partie s'engageait à ne pas aider l'agresseur. C'est-à-dire que
la Russie ne serait jamais un ennemi indirect de l'Iran.
C'est ça, et que la Russie ne soutient pas par exemple Israël dans ses attaques contre l'Iran. Après, c'est certain que les Russes ont quand même un rôle à jouer dans les négociations sur le nucléaire iranien. Et ils ont aussi peut-être quelque chose à gagner en termes d'imposer justement une sorte de paix, de montrer que les Américains, eux, sont à l'origine de désordre mondial, que eux, les Russes, ne le sont pas. Après, sur le plan en fait militaire, au contraire, oui, ils n'ont absolument rien à faire là-dedans. Et puis, il faut se rappeler quand même que si les frappes israéliennes sont aussi efficace, c'est parce que les S-300, donc les systèmes de défense sol-air qui ont été fournis par les Russes aux Iraniens, n'ont absolument pas marché. Donc là aussi, c'est pas un très bon coup marketing, on va dire, pour les systèmes russes.
Je voudrais citer l'extrait d'une interview qu'a donné le chercheur Bertrand Badi au journal Le Monde hier. Il disait « Donald Trump s'est montré fidèle à sa maxime « Make America Great Again », soit rétablir la puissance américaine ancienne. Une interprétation erronée de ce projet s'est répandue, qui consiste à croire que l'on assiste à un retour de l'isolationnisme américain, mais cela n'a jamais été le cas. La nostalgie qu'exprime Trump à travers cette formule passe effectivement par l'usage de la force. L'important reste de montrer que tous les chemins, la paix comme la guerre, passent par Washington. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord, Eloïs Feillet, avec cette théorie, si je puis dire ?
Alors, pas tout à fait, même si évidemment je respecte beaucoup Bertrand Badi et qui m'a en plus cité il y a pas longtemps. Non, en fait, quand on regarde quand même justement l'intérieur du camp MAGA et notamment ceux qui étaient proches de Trump dans le premier mandat de Donald Trump, il y en a beaucoup qui lui reprochent justement cet aventurisme au Moyen-Orient, qui ont peur que ça a créé des dégâts, comme on le voit actuellement avec ses frappes sur les bases américaines au Moyen-Orient, que ça coûte aux contribuables américains, que potentiellement les prix du pétrole augmentent, et en fait qu'il y a toujours un risque d'engagement de militaires américains. Après, oui, c'est sûr qu'il y a une autre partie du clan MAGA qui se transforme en fait complètement en secte et qui est vraiment abreuvée des paroles de Trump. Je pense notamment à Laura Loomer, par exemple, l'une des propagandistes de Trump, qui il y a encore un an disait qu'il était absolument inacceptable d'intervenir au Moyen-Orient, et puis là qui salue en fait les opérations américaines. Donc vous avez quand même une autre frange de ce parti qui eux effectivement saluent Make America Great Again, maintenant Make Iran Great Again, et qui sont ravis de voir effectivement cette douzaine de bombardiers B2 qui vont aller pulvériser les sites nucléaires iraniens. Mais oui, disons que le camp républicain est quand même très contrasté sur ces opérations militaires en Iran.
Puisque c'est Donald Trump lui-même qui parlait de Make Iran Great Again, Eli Fayad, votre théorie là-dessus, est-ce que dans le fond l'enjeu principal de Donald Trump est moins la paix que la présence persuasive dans le reste du monde que l'Amérique est encore aux manettes?
Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver une constante ou quelque chose qui puisse déterminer de façon définitive la politique de Donald Trump. Ça me semble un peu difficile. À la base, il s'était, je pense, inscrit, notamment lors de son premier mandat, dans une espèce, non pas peut-être d'isolationnisme, mais de continuité dans le désengagement américain. Et puis là, ça va dans tous les sens. Donc, personnellement, je ne peux pas aujourd'hui dire que l'Amérique va dans ce sens ou dans cet autre, parce que ça change tous les jours.
Et Louis Fay, est-ce que la rupture fondamentale ne se situe pas aussi dans le fait que Donald Trump n'a pas demandé l'avis du Congrès pour lancer cette opération? Il n'a pas non plus suivi les règles, les lois générales du droit international, et que c'est plus dans le rapport au droit et dans le rapport aux règles que cette attaque-là brise un tabou?
Oui, alors, sur le Congrès, j'avoue, je ne sais plus s'il avait demandé l'avis aussi pour cibler, par exemple, Qassem Soleimani en 2020. Après, pour le coup, le droit international, malheureusement, il est quand même en train de perdre de la vigueur. Trump ne condamne jamais, par exemple, les attaques russes qui sont faites contre l'Ukraine. Et lui-même, en fait, ne se pose pas du tout en garant, justement, de ces normes. Je pense, par exemple, à la norme de non-prolifération nucléaire. C'est l'un des premiers, par exemple, à dire que si jamais la Corée du Sud a envie d'une arme nucléaire, eh bien, ils les laisseront faire parce que ça coûtera forcément moins cher que d'entretenir environ 40 000 militaires américains déployés en Corée du Sud. Donc effectivement, en fait, je pense qu'on va vers un affaiblissement de la position des États-Unis comme garant du droit international, non pas face à des puissances qui souhaiteraient l'attaquer sur ce plan-là, mais tout simplement par un manque de volonté en interne aux États-Unis, qui voient toutes ces normes comme des contraintes à leur puissance stratégique et non pas comme justement quelque chose sur lequel on peut construire peut-être pas une paix durable, mais en tout cas une stabilité durable.
On a parlé du Qatar, où les Américains sont présents militairement. Ils le sont aussi au Bahreïn, en Irak, au Koweït. Est-ce que ces milliers de soldats américains déployés sur différentes bases militaires au Moyen-Orient et Loïs Fayez sont peut-être le principal risque pour les États-Unis aujourd'hui?
Oui, donc là, en fait, actuellement, il y a une dizaine de missiles qui ont été tirés donc depuis l'Iran sur la base d'Al Udeid au Qatar, alors dont la plupart semblent avoir été interceptés par la défense antimissile qatari. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est certain qu'ils savent qu'ils sont susceptibles en fait d'être attaqués, et c'est pour ça que même avant le début de l'opération israélienne, et ce qui nous a permis en fait de se douter que ça allait arriver, il y a eu une évacuation partielle justement des bases, des ambassades, le personnel non essentiel américain avait été évacué dès le 10 juin. Mais c'est un peu le revers effectivement de la présence américaine. D'un côté, ça permet de symboliser justement la protection américaine offerte au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à Bahreïn, et puis de se projeter pour des opérations de contre-terrorisme, parce que rappelons que ces forces-là sont présentes toujours dans le cadre de la lutte contre Daesh. Daesh qui a commis un attentat hier contre une église à Damas, mais elles sont aussi là potentiellement comme aimant effectivement d'une riposte iranienne qui vient d'avoir lieu.
Et en quelques mots, Eli Fayad, vous qui êtes à Beyrouth, au Liban, comment les choses sont-elles vécues dans votre pays?
C'est avec beaucoup de résilience, comme d'habitude, parce que nous sommes un peu habitués. Je pense que les nouvelles sont plutôt bonnes vues d'ici. Là, maintenant, il y a quelques temps, le secrétaire général du Hezbollah, l'actuel, a annoncé que son parti allait respecter les efforts diplomatiques en cours Et donc, continuer à respecter aussi le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre, donc entre la Hezbollah et Israël. Ce qui veut dire qu'on n'est pas près d'une intervention du Hezbollah dans le conflit actuel.
Merci beaucoup à tous les deux. Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI et à l'IFG. Eli Fayad, co-rédacteur en chef de L'Orient Le Jour, quotidien francophone libanais. Merci à tous les deux d'être venus ce soir.
Merci.
Dans Question du soir.